19h30, temps universel. Washington, la voix de l'Amérique. Vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui. Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portable.
Bonsoir l'Afrique, Le Monde Aujourd'hui, édition du vendredi 17 octobre 2014, en direct de Washington. Au micro, Morgane Guiriec, pour une émission spéciale sur le Nigeria. Un accord de cessez-le-feu avec Boko Haram a été annoncé par les autorités. L'accord prévoit également la libération de plus de 200 lycéennes enlevées mi-avril à Chibok, dans le nord-est du Nigeria. Les réactions des Nigérians et dans la sous-région, le rappel des faits, des analyses sur Boko Haram, c'est tout de suite sur la Voix de l'Amérique. Le groupe islamiste Boko Haram et le gouvernement nigérian annoncent avoir conclu un accord de cessez-le-feu qui comprend la libération de plus de 200 lycéennes enlevées à Chibok. Les deux parties disent être parvenues à l'accord ce vendredi à l'issue de discussions en Arabie Saoudite impliquant le président tchadien Idriss Déby et des représentants du Cameroun. Que sait-on pour l'heure? Un survol des derniers recoupements d'informations avec Jacques Aristide.
Eh bien, Morgane, la nouvelle est tombée comme une bombe ce vendredi et suscite encore beaucoup d'interrogations, bien évidemment. Mais voici les éléments dont nous disposons. D'abord, l'homme par qui ce gros titre est arrivé, il s'agit d'Alex Badé. Il est le chef d'état-major de l'armée nigériane. Nous l'écoutons.
But without any prejudice to the outcome of our 3 days interaction and the conclusion of this forum, I wish to inform this audience.
Un accord de cessez-le-feu a été conclu entre le gouvernement fédéral du Nigeria et Jamaatu Ahlis-Sunna Lida Awati Wal Jihad. J'ai donné des directives aux chefs de différents corps de l'armée afin que l'on assure que ces récents développements soient appliqués sur le terrain.
Petite précision, Jamaatu Ahlis-Sunna Lida Awati Wal Jihad veut dire groupe pour la prédication et le jihad, plus connu sous le nom de Boko Haram. Le chef d'état-major Badé a également émis un ordre écrit ce vendredi à l'intention des responsables des différentes branches de l'armée, leur demandant de se conformer à l'accord de cesser le feu dans tous les secteurs d'opération.
Et du côté de Boko Haram, Jacques, y a-t-il eu une déclaration officielle?
Eh bien, s'il y a eu, nous ne l'avons vu nulle part. En revanche, la VOA a pu s'entretenir avec Danladi Amadou, qui se présente comme le secrétaire général de Boko Haram, et il a déclaré à la VOA qu'un accord de cessez-le-feu avait effectivement été paraphé. Auparavant, le même Amadou et l'ambassadeur Hassan Toukour, un proche conseiller du président nigérian Goodluck Jonathan, avaient affirmé à la VOA que toutes les parties concernées étaient réunies en Arabie Saoudite pour des pourparlers avec l'aide du président tchadien Idriss Déby et des hauts cadres du Cameroun. Le gouvernement saoudien n'est pas impliqué dans les négociations.
Et la présidence nigériane a-t-elle réagi au développement de ce vendredi?
Pas encore. Aucune déclaration officielle pour l'heure du président Goodluck Jonathan. Un président, vous le savez, qui a été très critiqué tant par les Nigérians que par la communauté internationale pour sa lenteur après l'enlèvement des filles de Chibok et pour l'incapacité des troupes nigérianes d'anéantir Boko Haram.
Merci Jacques Aristide. À noter également que le porte-parole des services de sécurité nigérians affirme qu'aucun accord n'a été conclu concernant la libération de 200 lycéennes, contrairement à ce qu'annonce la présidence nigériane. C'est ce qu'indique l'AFP. Cet aspect n'a pas encore abouti, mais nous nous en rapprochons de plus en plus, a déclaré le responsable du Centre national d'information. Même son de cloche du côté d'N'Djamena au Tchad. Au micro d'Idriss Fall, nous écoutons Moussa Faki Mahamat, ministre tchadien des Affaires étrangères et de l'intégration africaine.
Écoutez, à la demande des deux parties, le gouvernement du Nigeria et le groupe Boko Haram, des contacts ont eu lieu le 14 et 30 septembre dernier à N'Djamena. Les deux parties ont accepté le principe de régler leurs différends par le dialogue. Et donc, à cet effet, elles ont convenu de déposer un certain nombre d'actes matérialisant leur bonne volonté, entre autres la libération des otages chinois et camerounais, c'est l'annonce d'un cessez-le-feu, ce qui est effectif. Les parties ont également convenu, notamment le groupe Boko Haram a accepté le principe de libérer les filles enlevées à Chibok. Et les modalités de cette libération seront convenues entre les parties et le Tchad qui assure le rôle de facilitateur. Il est également prévu en contrepartie que certains partisans de Boko Haram soient également libérés. Il est prévu de continuer les discussions dans les jours à venir.
Et est-ce qu'on sait quand est-ce que ces jeunes lycéennes vont être libérés?
Je ne peux pas être affirmatif. L'engagement est pris. Les partis ont convenu de se retrouver pour voir les modalités pratiques, incessamment.
Mais on a vu que très souvent, Boko Haram prenait des engagements et derrière eux, leur chef présumé, Aboubakar Shekau, remettait en question ce qui venait d'être conclu.
De toutes les façons, je ne peux pas préjuger du résultat, mais les deux parties ont discuté à maintes reprises, dans la plupart du temps toutes seules. Nous avons facilité le contact et elles ont convenu, comme je vous l'ai dit, entre autres la libération des filles de Chibok et la libération de certains partisans de Boko Haram qui sont dans les prisons nigérianes. Ils ont convenu de se retrouver, donc on a constaté la libération effective des Chinois et des Camerounais. Le cessez-le-feu qui était convenu d'être annoncé vient de l'être. Je pense que nous sommes sur la bonne voie. Je l'espère en tout cas.
Et le cessez-le-feu commence à entrer en vigueur quand?
Immédiatement. Je crois qu'avant-hier soir, Boko Haram a annoncé et aujourd'hui, le gouvernement du Nigeria a également annoncé la cessation de hostilités.
Voilà, c'était Moussa Fati Mahamat, ministre tchadien des Affaires étrangères et de l'intégration africaine. La Voix de l'Amérique, une édition spéciale sur l'accord de cessez-le-feu entre le Nigeria et Boko Haram. Les autorités nigériennes et tchadiennes l'ont annoncé. Comment la nouvelle est-elle reçue par les Nigérians d'abord? Idriss Fall a joint Joël Oloua Sehoun, professeur de français à Abuja, la capitale.
En tout cas, pour les Nigérians, c'est une nouvelle qui mérite d'être célébrée parce que tout le monde a tant espéré la fin du conflit au Nigeria et tout le monde a l'espoir que vraiment tout va finir complètement. On n'aura plus de ces problèmes de conflit, d'insécurité au pays.
Ce n'est pas la première fois qu'on annonce un cessez-le-feu avec Boko Haram.
Non, oui, justement, si on est présentement heureux de la nouvelle, on a aussi quelques réserves, puisque, comme vous le dites, nul n'est sûr si c'est authentique, nul n'est sûr si ils vont respecter l'accord. Mais on espère, on entend voir.
Ça intervient 6 mois après l'enlèvement de ces lycéennes de Chibok.
Oui, malheureusement, oui, on n'a aucune nouvelle. Mais on espère que par cet accord, on aura bientôt des nouvelles et on espère les retrouver saines et sauves. Et surtout, l'accord intervient peut-être suite à l'assassinat du leader de Boko Haram, j'espère. Peut-être c'est pour cela que bon, tout le monde décide de laisser tomber les armes.
Mais l'assassinat d'Aboubakar Shekau aussi a été annoncé plusieurs fois, non?
Oui, plusieurs fois, oui. Ça, c'est une nouvelle qui a beaucoup engendré d'incertitudes, mais cette fois-ci, bon, selon les sources, il paraît que c'est vrai qu'on l'a assassiné et c'est pourquoi il y a beaucoup d'ouverture à la négociation de paix.
Joël Aloua Sehoun, professeur de français à Abuja. Autre réaction au Nigeria, Idriss Fall a joint à Lagos, notre confrère Peter Oni.
L'accord de cessez-le-feu a été accueilli par les Nigérians comme toute autre information sur Boko Haram parce que depuis un certain temps déjà, des informations contradictoires se font jour sur le mouvement islamiste et le gouvernement fédéral, notamment sur le terrain de combat et aussi concernant les négociations. Vous n'êtes pas sans savoir que le président Goodluck Jonathan a été plusieurs fois critiqué par une partie de la population et même certains groupes internationaux pour son inaction sur la libération de ces jeunes lycéennes qui ont été enlevées en avril dernier par le groupe islamiste Boko Haram.
Donc les gens sont plutôt sceptiques?
Sceptiques, je dirais pas exactement, mais seulement une prudence au sein de la population. Parce que, à mon avis, la population serait ravie d'avoir une connaissance d'un dénouement de la crise, notamment sur ces jeunes lycéennes qui sont toujours incarcérées. Vous n'êtes pas sans savoir que, en début de semaine, des jeunes femmes du groupe Bring Back Our Girls étaient à la présidence de la République pour manifester leur colère sur l'incarcération de ces jeunes filles qui perdurent. Et aujourd'hui, si cette information venait à se confirmer, ce serait bien entendu un soulagement au sein de la population nigériane.
Mais ce n'est pas la première fois qu'on annonce un cessez-le-feu entre Boko Haram et le gouvernement fédéral aussi.
Mais bien entendu, voilà pourquoi les gens sont assez prudents. La population attend une confirmation réelle de cette information. Au sein de la population, tout le monde est désireux d'avoir une information positive sur le cessez-le-feu.
Et qu'en est-il de ce fameux Aboubakar Shekau qui a été annoncé plusieurs fois mort et qui ressurgit? Est-ce qu'il est vraiment mort ou encore vivant?
Ça, c'est une énigme au sein de la presse nigériane et même au sein de la population, car personne ne saurait dire qui est Aboubakar Shekau. Aboubakar Shekau avec plusieurs visages, Aboubakar Shekau 1, 2, 3, selon une section de la presse nigériane, Aboubakar Shekau serait bien entendu une personne qui se métamorphoserait à plusieurs moments. Le premier Aboubakar Shekau serait déjà tué et le second également tué dans des combats. Récemment, vous n'êtes pas sans savoir que la secte islamiste a connu des revers au niveau de Konduga et au niveau de l'état d'Adamawa ces derniers temps. Pour certains Nigériens, peut-être le cessez-le-feu venait à voir le jour à cause des revers militaires qu'a connu la secte Boko Haram.
Voilà, c'était la réaction de notre confrère Peter Oni à Lagos. Et toujours au Nigeria, Claire Morin-Gibourg a joint Amadou Moussa Adari à Kano, dans le nord du pays. Ce consultant en relations publiques est très dubitatif sur ce cessez-le-feu, qui ne serait d'après lui qu'une nouvelle manœuvre politique en vue des élections de 2015.
Beaucoup de Nigériens viennent d'être surpris de l'information qu'on vient d'apprendre cet après-midi. Il y a peu de gens qui sont optimistes, il y a des gens qui ne sont même pas au courant de ce cessez-le-feu, de ce soi-disant cessez-le-feu. Certaines personnes ne sont même pas au courant. Ce qu'on attend de plus de la part des autorités, donc il faut attendre d'ici 2-3 jours, une semaine, pour voir est-ce que réellement le cessez-le-feu sera en fonction, parce que une fois que le cessez-le-feu est en fonction, les gens vont confirmer les suspicions qu'ils ont d'ailleurs à l'égard du gouvernement fédéral.
Également ?
Moi c'est mon sentiment. Pour moi, je l'ai dit, je le répète, c'est que Boko Haram, c'est une création pure et simple de certains individus bien placés, intouchables. D'abord quoi, les terroristes, c'est juste un groupuscule d'individus par rapport à l'armée nigériane. Boko Haram, même s'il faut le comparer, est-ce qu'ils sont plus de 10 000? Alors que l'armée nigériane, c'est une armée qui compte plus de 300 000 individus. Vous allez nous dire que vous ne pouvez pas écraser ces groupuscules des criminels, c'est inconcevable.
Et quelles conséquences ça a, vous, sur vos activités au quotidien?
Au début, tout est au ralenti. Maintenant, c'est au point mort. Rien ne marche, rien. Rien, je vous dis rien, le vrai rien. Rien ne marche, rien.
Et justement, alors, si rien ne marche, pourquoi finalement cette nouvelle de cessez-le-feu n'est pas mieux accueillie?
Il y a d'autres qui ne sont même pas au courant, d'autres sont... En fait, personne n'est optimiste. Parce que le gouvernement dit A alors que c'est le contraire. Le gouvernement te dit B, c'est tout à fait le contraire. Donc on a beaucoup entendu cette histoire, on a beaucoup entendu. Maintenant on attend à voir. Personne ne veut faire du commentaire. On attend pour voir les réactions. Qu'est-ce qui va se passer d'ici une semaine, deux semaines? Mais pour l'instant, rien. Et généralement, les Nigériens ont mis tout en suspense jusqu'à la fin de l'élection de 2015.
Amadou Moussa Adari, un habitant de Kano au Nigeria. La Voix de l'Amérique, vous écoutez une édition spéciale sur l'accord de cessez-le-feu annoncé entre le gouvernement d'Abuja et Boko Haram. Au Cameroun voisin, qui a été à plusieurs reprises la cible d'attaques des islamistes nigérians, l'annonce de la signature a été accueillie avec beaucoup de précautions. Les Camerounais se posent des questions. Jean-Roger Billon a joint Moki Edwin Kinzeka, l'un des correspondants de La Voix de l'Amérique au Cameroun.
Ça fait plutôt peur et les Camerounais se posent beaucoup de questions. De un, est-ce que Boko Haram est en train de changer les tactiques? Hier matin, les guerriers de Boko Haram sont attaqués à Amtibé et Fotokol au Cameroun. Pendant les négociations, bon, ils ont tué beaucoup de Camerounais et ils ont laissé trois de leurs voitures blindées assainies à Fotokol. Si c'est vrai qu'ils négociaient pour le cessez-le-feu, on ne comprend pas pourquoi ils ont attaqué le Nord-Cameroun pendant les négociations de un. Et de deux, il y a eu le problème de libération du otage chinois et de 17 Camerounais. Là où l'État camerounais a négocié avec Boko Haram. Si c'est vrai, s'ils négociaient le cessez-le-feu, pourquoi laisser les négociations là où on apprend que Cameroun a payé beaucoup d'argent? J'ajoute en disant que le ministre camerounais des communications a dit aux médias que c'était possible que les gens de Boko Haram étaient en train de recruter au Nord-Cameroun. Est-ce qu'ils sont en train de changer là où ils ont d'habitude là où ils attaquent, c'est-à-dire Nigeria pour venir au Cameroun. Ce sont les questions que les Camerounais se posent depuis que cette nouvelle a été reçue au Cameroun. Est-ce qu'ils veulent venir maintenant au Nord Cameroun, là où ils ont recruté beaucoup de jeunes pendant des années? Est-ce que c'est une tactique pour changer, arriver au Cameroun et attaquer les Camerounais? Pourquoi ils sont attaqués un petit des protocoles hier et avant-hier? Et pourquoi, au moment que je vous parle, on nous dit qu'il y a toujours la guerre au nord entre Boko Haram et les Camerounais? Les Camerounais ne croient pas beaucoup à cette actualité.
À la lumière de ce que vous dites, y a-t-il une réaction des autorités camerounaises, du gouvernement lui-même?
Pas encore, mais hier matin, il y a eu la réunion entre les 10 Chinois libérés et le ministre camerounais de travaux publics, M. Ambassola. Là où les Chinois sont refusés d'aller travailler au Nord. Ils ont dit qu'il n'y a pas la sécurité au Nord. Ils ne relatent que pendant qu'il était kidnappé au Nigeria, ils n'ont pas vu les signes que les agents de Boko Haram, les guerriers de Boko Haram, de laisser cette guerre. Donc, il n'y a pas une déclaration officielle, mais les Camerounais ont peur plutôt. Et les Chinois aussi, ils ont peur. Ils disent qu'ils ne peuvent pas aller là-bas au Nord travailler. Les Camerounais disent que c'est comme Boko Haram a changé de tactique, venir ici au Cameroun.
Moki Edwin Kinzeka, correspondant de La Voix de l'Amérique au Cameroun. A noter que 8 militaires camerounais et 107 islamistes du groupe Boko Haram ont été tués mercredi et jeudi lors d'intenses combats dans l'extrême nord du Cameroun, près de la frontière avec le Nigeria. Et c'est ce qu'a annoncé vendredi le ministère camerounais de la Défense, cité par l'AFP. Cet accord, s'il se vérifie sur le terrain, pourrait clore provisoirement la décennie de conflit entre Boko Haram et le gouvernement nigérian, qui aurait fait des milliers de morts, de déplacés internes et des centaines de milliers de réfugiés. Cette lutte symbolise aussi les problèmes historiques de gouvernance dans le pays. Pour une analyste, Nicolas Pineau a joint Ado Mahaman, recteur de l'université de Tawa.
Je ne suis pas surpris parce que le conflit de Boko Haram entre dans une longue histoire de la logique politique du Nigeria. Et le Nigeria a déjà eu, une bonne partie du Nigeria a déjà eu le djihad au 19e siècle. Ils ont eu la guerre civile entre 1966 et 1970, tentée de régionalisme et de problèmes religieux. Ils ont eu un autre mouvement religieux musulman en 1984 qui s'appelle Métakiné. Et maintenant, depuis 2002, ils sont dans la logique de Boko Haram. La logique de Boko Haram est intimement liée à la gouvernance du Nigeria et des compétitions politiques des différents groupes au Nigeria.
Pensez-vous que cet accord va permettre la pérennité de la prochaine élection présidentielle l'année prochaine?
La résolution du conflit contribuera certainement à la réalisation des élections qui couvrent d'abord l'ensemble du Nigeria, parce que c'est aussi ça la légitimité des élections quand elles couvrent l'ensemble du territoire du Nigeria. S'il n'y a pas de conflit, elle va couvrir l'ensemble du territoire du Nigeria. Et elles vont être des élections acceptables selon la manière dont elles vont se dérouler. Mais s'il y a un conflit dans une zone, les élections ne peuvent pas se dérouler puisque Boko Haram fait attaque jusqu'au centre du Nigeria. Elle fait attaque. Donc on ne peut pas organiser des élections dans une quiétude où on est sûr que les bureaux de vote ne vont pas être attaqués, comme les services de l'État, comme les villages, comme les écoles sont attaqués, brûlés, détruits. Mais voilà une condition, à mon avis, de réalisation des élections acceptables. Et si le conflit n'arrange pas tout le monde est essoufflé dans ce conflit. Les activités économiques, en partie, il y a beaucoup de réfugiés du Nigeria au Niger, au Cameroun, au Tchad, etc. La société est complètement perturbée.
Ado Mahaman, recteur de l'université de Tawa au Niger. Vous êtes à l'écoute de La Voix de l'Amérique, Le Monde Aujourd'hui, édition spéciale ce soir sur l'annonce d'un accord au Nigeria entre le gouvernement et les insurgés djihadistes de Boko Haram. Qu'est-ce qui pourrait bien expliquer le timing de cet accord de cessez-le-feu entre le gouvernement et Boko Haram ? pourquoi à ce moment précis ? La question posée par Idrissa Seydoudia au professeur Cletus Iom de l'université de Makourdi dans l'état de Benoué.
Non, mais on n'a pas encore entamé totalement cet accord. Il y a toujours des entretiens. J'ai appris que la discussion continuerait la semaine prochaine. Mais ils ont fait quand même un grand progrès.
Mais pourquoi en ce moment précis ?
Vous voyez que le Nigeria a continué de faire des efforts pour arrêter ce problème. Il y en a qui se font en cachette, qui ne sont pas exposés au public. Mais ce qu'on sait ici, au plan juste, c'est la lutte, le combat entre le groupe et le militaire. Il y a aussi des entretiens, n'est-ce pas ? Que le gouvernement entame avec le groupe. Dans l'ensemble, le gouvernement a confronté beaucoup d'obstacles.
Okay.
Le projet est très long, très très long. On ne sait pas justement s'il s'agit de la faiblesse du gouvernement.
Qu'est-ce que le gouvernement aurait à gagner en ce moment précis et Boko Haram en ce moment? Qu'est-ce qu'il aurait à gagner d'un accord de cessez-le-feu?
La question de ces 200 filles, n'est-ce pas 219 filles qui ont été arrêtées par le groupe depuis 6 mois, d'ici je crois. Puis le gouvernement a fini par entamer cet accord avec le groupe. Ce sera un grand succès, une grande réussite. Parce que si le gouvernement réussit à libérer ses filles, ce sera un grand succès pour le gouvernement.
Ce n'est pas la première fois que l'on parle de cessez-le-feu entre le gouvernement et Boko Haram. Qu'est-ce qui nous dit que cette fois-ci, ça tiendra?
En réalité, on ne sait pas, nous qui sommes dehors de ce qui se passe. Il paraît que le militaire a maintenant le dessus en ce qui concerne le combat. Chaque jour, on apprend que le groupe, on a battu le groupe d'ici par là. Et je crois que le groupe s'affaiblit maintenant. On a tué même le leader, il s'était annoncé. Il conteste. Donc, je crois que le groupe demande aussi l'arrêt du combat. C'est intéressant.
Donc, le mouvement a été affaibli militairement, le gouvernement a le dessus et c'est peut-être là les conditions réunies pour la paix finalement, c'est ce que vous semblez dire ?
Oui, je pense bien, oui.
Le professeur Cletus Iom de l'université de Makourdi dans l'état de Benoué. Pour un autre point de vue, Nicolas Pinault a recueilli l'analyse de Jean-Christophe Servant, spécialiste du Nigeria.
Ce n'est pas la première fois, effectivement, que des tentatives de cessez-le-feu, des négociations sont menées entre Boko Haram et le gouvernement nigérian, et en particulier sous l'égide de l'Arabie saoudite. Mais ceci, jusqu'alors, avait achoppé. Est-ce qu'on rentre dans une nouvelle stratégie de la part du gouvernement nigérian qui est en train de communiquer énormément actuellement en amont des élections générales de février prochain, ce serait de toute façon tout à l'avantage du gouvernement nigérian. Que l'Arabie saoudite soit au centre de ces négociations n'est pas non plus nouveau, puisque parmi les premières tentatives de médiation effectivement qui avaient été menées, si je m'abuse, en 2012, l'Arabie saoudite avait déjà effectivement tenté de faire d'être médiatrice, en tout cas certains responsables de Boko Haram et le gouvernement central nigérian.
Est-ce que vous pensez que la libération des lycéennes va également être possible ?
Alors ça, c'est une toute autre question, puisque on ne sait pas précisément si les lycéennes, les 260 à peu près, selon les estimations, sont réunies au même endroit, puisque initialement, effectivement, elles avaient été amenées il y a de cela 6 mois, puisqu'en même temps, ça coïncide effectivement plus ou moins avec les 6 mois de captivité de ces jeunes lycéennes de Chibok. Initialement, elles avaient été toutes amenées dans la forêt de Sambisa, qui est une forêt... un maquis extrêmement grand au nord-est du Nigeria, dans l'état de Borno. Et face aux opérations qui avaient été menées par les forces militaires nigérianes, il est clair qu'elles avaient été divisées en groupes qui, certains avaient pu les amener côté Tchad, d'autres côté Cameroun.
Jean-Christophe Servant, spécialiste du Nigeria. Voilà pour cette édition spéciale sur le Nigeria. Au micro, Morgane Guiriec, en direct de Washington. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur la Voix de l'Amérique. On enchaîne sur un tour d'horizon de l'actualité en compagnie de Jean-Roger Billon.
Le président Barack Obama a chargé un ancien fonctionnaire de la Maison-Blanche de coordonner la lutte contre l'épidémie d'Ebola aux États-Unis, Camille Gros-Didier.
La Maison-Blanche a déclaré vendredi que Ron Klain, un ancien proche collaborateur de deux vice-présidents, sera l'Ebola tsar, le chef de la lutte contre le virus mortel. M. Obama avait évoqué la possibilité de nommer un tel responsable jeudi lorsqu'il a autorisé le déploiement de forces militaires supplémentaires en Afrique de l'Ouest. Par ailleurs, le secrétaire d'État américain John Kerry a déclaré à des diplomates en poste à Washington que la communauté internationale doit coopérer pour résoudre la crise. Il a noté qu'à peine un tiers du milliard de dollars réclamé par les Nations Unies pour lutter contre la maladie a été fourni. En l'absence d'une plus grande mobilisation, l'épidémie d'Ebola deviendra une crise mondiale comme la polio, a-t-il averti.
En Centrafrique, 3 civils ont été tués et un grièvement blessé dans de nouveaux heurts intercommunautaires qui ont éclaté à Bangui, au PK5, un quartier musulman. À l'origine de ces violences, des individus se réclamant des anti-balaka, milice à dominante chrétienne, ont attaqué un sujet musulman qui circulait à moto.
République démocratique du Congo, le gouvernement confirme que les rebelles ougandais de l'ADF sont derrière le massacre commis mercredi à Beni, dans le nord Kivu. Le dernier bilan de cette attaque serait de 30 morts et non de 26, comme l'avait annoncé la veille l'armée.
Au Rwanda, 3 petits partis proches du pouvoir réclament un référendum pour modifier la constitution afin de permettre au président Paul Kagame de briguer un nouveau mandat. L'actuel texte limite à 2 le nombre de mandats présidentiels.
Au Soudan du Sud, le programme alimentaire mondial est sans nouvelles de son employé enlevé hier dans la capitale du Haut-Nil, Malakal, contrôlée par des troupes loyales au président Salva Kiir.
Madagascar, la femme de l'ancien président Marc Ravalomanana appelle à libérer le pays. Ces propos interviennent alors que les partisans de Ravalomanana prévoient de manifester demain pour soutenir leur leader, mis au secret dans le nord de la grande île.
Bert Conders, représentant spécial de l'ONU pour le Mali, a été nommé aujourd'hui ministre des Affaires étrangères des Pays-Bas, un peu plus de mois après la reprise de pourparlers entre Bamako et les rebelles.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Violents affrontements à Benghazi entre forces pro-gouvernementales et groupes islamistes dans l'est de la Libye. Au moins 18 personnes ont été tuées selon une source hospitalière.
En Égypte, 2 policiers ont été tués hier soir dans un attentat à la bombe à Al-Arish dans le Sinaï. 11 autres personnes ont été également blessées dans une double explosion attentat, une ville du delta du Nil où se tenait un festival religieux soufi.
Des progrès encourageants ont été faits grâce aux raids aériens de la coalition et aux efforts des combattants kurdes contre les militants du groupe État islamique à Kobané. C'est ce qu'a déclaré le général Lloyd Austin, commandant des forces américaines au Moyen-Orient. Mais il estime encore fort possible la chute de cette ville syrienne.
Les militants du groupe État islamique ont revendiqué la responsabilité d'une série d'attentats à la voiture piégée et d'attaques aux mortiers dans les quartiers chiites de Bagdad, la capitale irakienne. Au moins 36 personnes ont été tuées.
Au Pakistan, un tribunal a confirmé la peine de mort prononcée contre Asia Bibi, une chrétienne dont la condamnation en 2010 pour blasphème avait mené à l'assassinat de 2 politiciens qui la défendaient. Son avocat se propose d'interjeter appel tandis qu'Amnesty International parle de grave injustice.
À Hong Kong, un groupe qui aide à organiser des manifestations pro-démocratie met en doute la sincérité du gouvernement qui appelle au dialogue. Occupy Central réagit ainsi au dernier raid effectué tôt ce matin par des centaines de policiers contre les protestataires dans le quartier densément peuplé de Mongkok.
Ainsi s'achève Le Monde aujourd'hui, édition spéciale sur l'accord de cessez-le-feu entre le Nigeria et les insurgés islamistes de Boko Haram. Lionel Gaïma a dirigé la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. C'était Morgane Guiriec. On se retrouve lundi.